Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Comme le raconte une dépêche de l'AFP publiée ce mardi, si la crise entre le Qatar et ses voisins n'a pas dégénéré pour l'instant sur le plan militaire, il en va autrement sur le terrain médiatique. Guerre totale dans les médias et sur les réseaux sociaux du Golfe, titre l'agence de presse, évoquant à la fois les mesures de rétorsion imposées à la chaîne qatari Al Jazeera et les combats de mots-clés pro-Doha ou pro-Riyad sur Twitter. Le 5 juin dernier, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et le Yémen annonçaient la rupture de leurs relations diplomatiques avec le Qatar pour dénoncer en vrac son soutien au groupe terroriste islamiste, aux frères musulmans et sa proximité avec l'Iran. En 2014, les trois premiers avaient déjà rappelé leurs ambassadeurs postés à Doha, mais cette fois, la crise est montée d'un cran. Ce qui est frappant, c'est que ces fortes tensions se jouent entre des pays qui partagent l'appartenance à une même famille confessionnelle, l'islam sunnite. La réduction des tensions régionales à un affrontement entre sunnites d'un côté et chiites de l'autre ne semble donc pas résister à cette confrontation. Ce qui ne veut pas dire que la dimension religieuse en est absente, mais qu'elle ne saurait à elle seule expliquer ce qui se joue depuis des décennies d'ailleurs dans cette région. Alors Moyen-Orient, le retour du politique, c'est autour de cette question que nous allons discuter ce soir en compagnie de deux invités. Jean-François Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe spécialiste du fait religieux. Vous avez publié chez Fayard en 2014 « Les hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient ». C'est un de vos thèmes de recherche. Vous êtes par ailleurs directeur des éditions du CERF, ce qui vous vaut de bien connaître a priori notre deuxième invité, puisque son dernier ouvrage a été publié justement aux éditions du CERF. Il s'agit d'Amit Bozarslan, bonsoir.
Bonsoir.
Ce dernier ouvrage, c'est « Qu'est-ce qu'une révolution Amérique, France, monde arabe 1763-2015 », ouvrage que vous avez coécrit avec Gaël de Melmestre. Vous êtes sociologue et historien, directeur d'études à l'EHESS. Alors pour entamer la discussion entre vous deux, je voudrais vous soumettre une déclaration qui a été faite aujourd'hui en Norvège, à Oslo, par le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif. Il évoquait évidemment la crise qui est en cours dans le Golfe entre le Qatar et puis l'Arabie Saoudite et ses alliés. Et il a proposé, je le cite, « d'établir un mécanisme permanent de consultation, de conversation et de résolution des conflits dans notre région ». Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, Amit Bozarslan ?
Oh, je pense que la diplomatie iranienne présente cette proposition depuis maintenant une bonne dizaine d'années, depuis la crise autour des armes nucléaires avec les Occidentaux. Mais je suis pas tellement certain qu'une telle proposition ait quelque chance de réussir, en tout cas pour l'immédiat. N'oublions pas qu'aujourd'hui, dans le monde arabe, on assiste à un triple conflit, une triple guerre. Il y a une guerre civile arabe et on voit que cette guerre civile maintenant comprend une grande partie des sociétés arabes. On parlait beaucoup de la guerre civile européenne entre 1870 et 1945. On a l'impression qu'il y a une telle guerre aujourd'hui qui se mène dans le monde arabe. Il y a une deuxième guerre qui est une guerre confessionnelle et l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Turquie font pleinement partie de cette guerre. Et il y a une troisième guerre qui est une guerre hégémonique qui implique cette fois-ci la Russie et depuis maintenant quelques mois aussi les États-Unis. Donc quand on est en face d'une telle situation, d'une telle complexité avec une triple guerre, on ne voit pas comment juste des mécanismes diplomatiques pourraient être actionnés et résoudre des questions régionales.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jean-François Colosimo ? Est-ce qu'on peut dire peut-être que cette proposition, elle est d'autant plus facile à émettre de la part de la diplomatie iranienne que l'Iran sait très bien que cette proposition ne peut pas de toute manière voir le jour, en tout cas si ce n'est à long terme, ni à court ni à moyen terme ?
Que Téhéran sache que cette proposition soit complètement irréaliste, il n'empêche aussi que ça correspond à un vœu réel de la part de Téhéran, d'autant plus après le voyage de Donald Trump en Arabie Saoudite, où on a vu un président américain déclarer à Riyad qu'il n'y a qu'un seul fauteur de tout trouble dans la région, ce serait l'Iran, n'est-ce pas ? Dans un pays comme l'Arabie Saoudite, qui est tout de même financeur de l'islamisme, c'est l'Iran qui est désigné comme le berceau nourricier du terrorisme international. On sait que l'Iran a été terroriste, ce n'est plus vrai aujourd'hui, et il est évident que de ce point de vue-là, Téhéran veut montrer aussi sa bonne volonté, parce que ce que redoute Téhéran, c'est une mise au ban dans la région, n'est-ce pas ? Et de n'avoir comme, finalement, levier diplomatique que son pouvoir d'influence, alors là, pour le coup, sur les univers qui lui sont proches, de se retrouver en quelque sorte encerclés. Donc je crois qu'il y a aussi un véritable souhait assez réel de la part de Téhéran d'échapper à la mise au ban.
Et puis ça peut avoir pour vertu peut-être d'obliger les autres pays de la région à se positionner justement sur cette proposition et à montrer que peut-être l'Arabie Saoudite est moins entourée qu'elle n'en a l'air dans cette crise.
Oui, et puis quand on voit qu'évidemment c'est l'Arabie Saoudite qui mène une coalition au fond non plus cette fois-ci contre l'Iran, mais cette fois-ci contre le Qatar. Alors évidemment, l'Iran a beau jeu de se montrer, je dirais, quasiment pacifiste, faiseur de paix, etc. Il y a aussi une forme un peu quand même d'ironie diplomatique dans tout ça. C'est que c'est l'Iran qui, dans la région, ferait la paix entre deux puissances arabes, sunnites, entre deux, si l'on peut dire, émirats, entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Il y a une forme aussi d'ironie supérieure là-dedans.
Imaginons qu'il n'y ait pas cette crise politique actuelle, Amit Bozarslan, est-ce qu'on pourrait, au-delà de ça, et qu'il n'y ait pas non plus la rivalité régionale, alors ça fait beaucoup d'imagination peut-être entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'au sein d'une même structure de coopération cohabite en tout cas un des grands pays de l'islam sunnite, l'Arabie Saoudite, et le grand pays de l'islam chiite, à savoir l'Iran? Ou bien est-ce que la barrière confessionnelle empêche a priori de toute manière d'envisager la création d'une telle structure?
Il y a 20 ou 25 ans, on aurait parfaitement imaginé qu'effectivement la diplomatie régionale se base sur d'autres principes que sur la division confessionnelle. Après tout, n'oublions pas qu'il y a 50-60 ans, l'Iran et l'Égypte collaboraient pleinement. Il y a encore quelques décennies, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, qui étaient deux puissances sunnites, étaient en guerre au Yémen. Donc, je pense que la don confessionnelle n'était pas une fatalité au Moyen-Orient. Sauf qu'il est aussi vrai que depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, on est entré dans un processus de confessionnalisation. Et ce processus de confessionnalisation a été accéléré d'abord par l'Arabie Saoudite. Je pense que là, c'est un fait absolument réel, mais aussi par l'Iran. Et cette confessionnalisation a vu le jour non seulement dans des compétitions régionales, mais dans des pays comme l'Irak, dans un pays comme la Syrie et dans un pays comme le Yémen. Donc je pense qu'effectivement, autant on peut parfaitement envisager un jour que le Moyen-Orient sorte de ses guerres confessionnelles, autant pour le moment j'ai l'impression qu'on est pleinement dans la dynamique de guerre confessionnelle.
Jean-François Colosimo. Il faut regarder aussi la dimension, je dirais, macro-géopolitique, n'est-ce pas ? Avant 1979, le pays allié des États-Unis et d'Israël, puisqu'il y a une forte collaboration entre Téhéran et Tel Aviv, c'est l'Iran. Et ça semble d'ailleurs, une alliance qui s'inscrit sur le temps long, des compatibilités culturelles fortes, etc. Aujourd'hui, l'allié des États-Unis est l'objet de rapprochement avec Israël, c'est l'Arabie Saoudite, puisqu'il est évident que Benjamin Netanyahou, lui, finalement, parie sur une coalition sunnite apaisée, pas plutôt que sur une véritable nouvelle donne régionale. Donc, vous voyez que sur 30 ans, on est à front renversé. Il n'empêche que dans cette région, s'il y a un pays qui semble capable de modernité à tout point de vue, y compris d'une certaine forme de réforme religieuse, en dépit du régime absurde qui domine aujourd'hui, le régime des ayatollahs, c'est bien l'Iran, ce pays tout de même qui reste assez prodigieux du point de vue de sa créativité. Pensez au cinéma iranien, là encore en dépit d'une censure absurde. Pensez aussi au fait que l'Iran ne s'est pas voulu une théocratie, mais une république islamique. Là, on a un phénomène tout à fait complexe, et il semble que malgré tout, les Occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis de Donald Trump, plus les Européens qui suivent comme ils peuvent, eh bien, et soient assez aveugles sur le fait que l'Iran, aussi revendicatif soit-il, aussi belliqueux soit-il, aussi condamnable soit-il du point de vue du régime qu'il a aujourd'hui, reste malgré tout le vecteur de progrès le plus évident dans la région.
Et est-ce que vous diriez que cette modernité, elle est notamment liée à la nature de la religion dominante en Iran, à savoir l'islam chiite?
Alors moi je le crois, mais Amit me dira peut-être que non. Mais voilà. Je pense que quand on regarde l'histoire de l'islam, ce qui compte depuis l'origine, c'est ce rapport conflictuel finalement entre le vecteur principal de la tradition et finalement les hétérodoxies, les hérésies, les dissidents. C'est un phénomène originel dans l'islam et extrêmement fort. On peut parler des Alévis de Turquie, on peut parler des Bektachis de Turquie, etc. Parlons là des chiites d'Iran. Il est évident que le chiisme suppose une lecture allégorique du Coran, c'est-à-dire une lecture qui n'est pas simplement littérale. Le chiisme suppose une ouverture sur l'histoire, parce que même si le prophète est venu, on attend l'imam caché, le mahdi, on attend une révélation incarnée dans l'histoire. Le chiisme est tout à fait compatible avec l'image, en l'humilure persane, aujourd'hui le cinéma iranien. Le chiisme, je dirais, comme une nébuleuse, là, hein, pas une école particulière. Le chiisme est très concerné, malgré tout, par le statut de la femme, lorsque l'on compte le nombre de vénérations à l'égard de figures féminines, le nombre de sanctuaires féminins. Et puis, finalement, aussi, le chiisme a un clergé. Et ça suppose une certaine séparation entre le spirituel et le temporel. Voyez en Irak, hein, c'est pour ça, évidemment, qu'il n'y a pas d'arc chiite aussi simple, tout est complexe, Hamid doit nous l'expliquer, mais Ali Sistani, qui est vraiment la grande figure, pour le coup, spirituelle du chiisme, c'est un opposant total des visions de l'ayatollah Khomeini. Lui, il est pour une stricte séparation, comme ça peut être en Orient. Ne plaquons pas non plus notre intelligence occidentale là-dessus. Donc ce chiisme, il est intéressé par la justice sociale, il est intéressé par la culture, et il a un rapport, en fait, très complexe à l'histoire.
Amine Bozarsan, est-ce que rien de ce que dit Jean-François Colosimo à propos du chiisme ne peut être appliqué au sunnisme ? Ou bien est-ce qu'il y a quand même quelques équivalences, disons, dans ce qui vient d'être décrit ?
Je pense que, bien entendu, il y a des passerelles. Hein. Mais si on regarde l'histoire des radicalismes chiites et sunnites, on voit effectivement une différence majeure. Le chiisme produit une radicalité, mais cette radicalité apparaît être une radicalité maîtrisée. L'Iran a une diplomatie milicienne à l'échelle régionale, que ce soit notamment au Liban avec la fondation de Hezbollah en 1982, mais cette diplomatie milicienne est aujourd'hui aussi poursuivie ailleurs. Mais cette diplomatie milicienne qui peut être extrêmement coercitive, le Hezbollah n'est pas une organisation démocratique, mais cette diplomatie milicienne malgré tout finit par renforcer la communauté chiite dans chacun des pays où elle se trouve.
C'est pas une organisation démocratique, en même temps elle se soumet au principe des élections.
Oui, mais concernant disons la cohésion de la communauté chiite libanaise, on sait qu'elle est obtenue aussi par la coercition interne. De l'autre côté, quand vous regardez le sunnisme produit aussi une radicalité, mais cette radicalité devient systématiquement une sur-radicalité et finit par détruire la communauté sunnite elle-même. Jean-François mentionnait effectivement le rôle de l'Arabie Saoudite, y compris dans le 11 septembre. On sait que depuis la première guerre de l'Afghanistan en 1980 en nos jours, le djihadisme qu'on est, c'est un djihadisme radicalisé, c'est un djihadisme qui a été sponsorisé au début, en tout cas par l'Arabie Saoudite, c'est un salafisme exporté, ce salafisme exporté se radicalise dans des contextes de guerre, mais finit systématiquement par détruire, y compris la communauté sunnite. De ce point de vue-là, on a l'impression qu'effectivement le chiisme dispose, à défaut disons d'être de développer une culture politique démocratique, dispose des instruments de sa propre maîtrise, alors que l'Arabie Saoudite, ni le radicalisme sunnite ne parviennent absolument pas à produire ce type d'outils de contrôle de soi et de frein de soi.
Alors sur cette façon dont se développe peut-être la radicalité, je voudrais vous faire entendre un court extrait d'une émission extrêmement récente de France Culture, c'est Dimanche et Après de Raphaël Bourgois, qui évoquait il y a deux jours la question des islams politiques, discussion assez proche finalement de celle qu'on a ce soir, et il y avait parmi ses invités l'historien Pierre-Jean Louisard, que vous devez connaître j'imagine l'un et l'autre, et écouter ce qu'il disait à ce sujet.
Ce qui est nouveau, c'est l'idéologisation de l'islam, mais cette idéologisation, elle s'est faite de façon différente, suivant qu'on se réfère au courant islamiste, c'est-à-dire les frères musulmans qui légitiment le droit de la majorité, les élections, le système parlementaire et constitutionnel, ou le mouvement salafiste qui, lui, à partir du début du XXe siècle, s'est réfugié dans un apolitisme, mais qui n'était pas une séparation du politique, était un apolitisme militant, à partir de l'idée selon laquelle la politique était sale et qui était plus occupé à construire une contre-société en marge d'une société considérée comme corrompue.
Voilà, extrait de Dimanche et Après, dont vous pouvez réécouter l'émission en intégralité en allant sur notre site franceculture.fr. Est-ce qu'on peut dire, Jean-François Colosimo et Amit Bozarsan, que pour comprendre ce qui est en jeu au Moyen-Orient, il faut comprendre aussi justement que l'islam ne se traduit pas, même si l'islam n'est pas exclusif hein, en termes de représentation confessionnelle, évidemment, dans la région, mais les positionnements se comprennent aussi, pas seulement entre affrontements d'un côté les sunnites, d'un côté les chiites, mais plutôt dans la traduction politique que l'on donne à cette religion, Jean-François Colosimo.
Oui, enfin, vous savez, c'est la fameuse thèse de Huntington, n'est-ce pas, le choc des civilisations avec le fond religieux. Bon, on sait bien qu'il n'y a pas un islam, mais des islams, et qu'il n'y a pas simplement les sunnites et les chiites, mais différentes façons d'être sunnites, différentes façons d'être chiites, et puis qu'il n'y a pas que eux dans la région. Il y a des tas de gens qui se définissent par rapport à des projets nationaux sur des bases ethniques. Pensons aux Kurdes. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à se définir et qui parfois se divisent entre eux parce qu'ils sont tellement minoritaires que désormais ils doivent suivre des courants majeurs. Pensons aux chrétiens d'Orient. Donc évidemment, là on est dans la mosaïque orientale ou dans le tapis oriental, si vous voulez, dans toute sa dimension multicolore. Mais il n'empêche que par rapport à ça, il y a bien tout de même une tendance assez lourde, n'est-ce pas? Et cette tendance, elle se traduit par le fait qu'un archiite, pour la première fois dans l'histoire, s'est réellement formé à partir effectivement de la révolution iranienne de 1979 et très probablement aussi, il faut le dire, de la succession des erreurs américaines, n'est-ce pas? Il y a eu aussi des bouleversements démographiques, comme au Liban. Il y a plusieurs facteurs, mais aujourd'hui, on peut dire que si vous voulez, de l'Azerbaïdjan à Bombay, de la Méditerranée à l'océan Indien, en passant par Beyrouth, Damas, un peu en dessous de Karbala, le sud de l'Irak, l'Iran, en mangeant un tout petit peu du nord-est de l'Arabie Saoudite, en passant par Bahreïn, qui a un émir sunnite, mais qui a une population chiite, et en arrivant jusqu'aux Ismaéliens de l'Aga Khan, qui eux sont sur le rivage de l'Inde, bien, on a un univers là qui s'est rendu compte qu'il avait à nouveau une capacité historique. Alors ça va pas sans contradiction, parce que ethniquement, linguistiquement, culturellement, ils sont pas les mêmes. Politiquement, ils ont pas les mêmes intérêts, n'est-ce pas? Ça peut être conflictuel à l'intérieur.
Oui, parce que j'allais y venir justement. Est-ce que cette unité historique, elle se retrouve en termes d'unité politique, c'est-à-dire des intérêts communs qui seraient...
Juste un mot, c'est dès lors que l'islamisme sunnite a la prétention d'éradiquer toute forme d'islam qui ne lui ressemble pas, qui ne ressemble pas à sa version très réductrice, bien sûr, hein, de l'islam et de l'histoire musulmane, cette passion éradicatrice, elle s'accorde aux chiites, elle s'adresse aux chiites. Donc même si les chiites ne veulent pas se définir tellement en tant que chiites, ils sont désignés comme tels, aujourd'hui, par cet islamisme sunnite. Et ça, vous savez que la désignation, c'est un puissant ferment d'unification aussi.
L'islamisme sunnite comme élément d'explication majeur, peut-être justement, de cette confessionnalisation de la région. Enfin, c'est pas ce que vous avez dit, Jean-François Colosimo. Oui. Mais en tout cas, est-ce que ce serait comme ça que vous pourriez dire les choses, vous, Amit Bozarslan? Ou bien est-ce qu'on peut aussi considérer qu'il y a peut-être une lecture de la répartition des rôles dans la région qui fait qu'à un moment donné, c'est presque performatif et qu'on en revient justement à des divisions qui ont été créées mais qui en deviennent réelles?
Je pense qu'il y a effectivement une fonction performative, hein. Mais si on prend par exemple l'histoire du Moyen-Orient, plus particulièrement du monde arabe depuis les années 40 ou 50, hein, il y a 50 ans, sans doute, on n'aurait pas parlé dans ce terme-là. On aurait parlé en termes de droite et de gauche éventuellement. On aurait évoqué la problématique révolutionnaire. Hein. On aurait parlé des mouvements syndicaux. On aurait parlé d'un mouvement nationaliste arabe, hein, certes autoritaire, hein, débouchant sur des partis uniques. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, il y a la faillite de la politique. Il y a le fait qu'effectivement la société politique arabe a été totalement étouffée, détruite par les États. Il y a une captation du pouvoir, que ce soit en Irak ou en Syrie, par des clics issus de telle ou telle communauté. Ce facteur, je pense, est vraiment le premier facteur. Et c'est à partir de ce facteur-là qu'on voit effectivement que la logique confessionnelle s'est installée. Et cette logique confessionnelle, comme j'ai dit, bon, effectivement, le chiisme arrive à le maîtriser. Le sunnisme n'arrive pas à maîtriser sa propre radicalité. Il y a un deuxième deuxième élément qu'il faudrait prendre en considération, j'ai insisté au début de cette intervention sur la dimension confessionnelle, mais aussi hégémonique des conflits qui sont en cours. N'oublions pas que l'Arabie Saoudite se voulait, surtout depuis l'arrivée au pouvoir de roi Salman en 2015, la superpuissance régionale, pas seulement dans le Golfe, mais aussi en Corne d'Afrique. Or, cette stratégie a totalement échoué. La guerre qui a été lancée au Yémen contre les Houthis a été un désastre. Sans doute, le coût de la guerre est estimé à quelque 200 millions de dollars par jour pour un pays qui est aujourd'hui en crise économique. Aden a été libéré, mais Aden est grignoté rue par rue par Al-Qaïda. Là encore, on voit que la capacité de l'Arabie Saoudite de maîtriser les conséquences de ses propres actes militaires sont extrêmement limitées. Et dans la surenchère qu'aujourd'hui on voit aussi bien par rapport à l'Iran que par rapport au Qatar, sans doute qui ne méritait pas une telle place dans la région ou dans ce conflit, il y a aussi les crises internes de l'Arabie Saoudite.
Et donc c'est aussi une façon de quoi de faire oublier ou de mettre un peu à l'arrière-plan ces déboires actuels.
Ces déboires actuels. Et d'autant plus qu'effectivement aujourd'hui, ce sont les Soudaïris qui gouvernent en Arabie Saoudite. Ils sont 6 ou 7, mais ils ont totalement confisqué le pouvoir. Et n'oublions pas que là, je rejoins totalement ce que vous disiez. Il y a quand même aussi des façons différentes de se positionner en tant que musulmane. Il y a aujourd'hui des appels au meurtre qui sont lancés depuis le palais saoudien contre le roi Salman lui-même. En Arabie Saoudite aussi, il y a énormément de conflits, de clivages. Comme j'ai dit, effectivement, le radicalisme sunnite, quelle que soit la version dans laquelle il s'exprime, elle s'exprime, n'arrive pas du tout à se maîtriser.
Alors je rappelle que la question que nous posons ce soir, c'est Moyen-Orient, le retour du politique, et nous la posons au sociologue et historien Amit Bozarslan et au philosophe Jean-François Golosimo. Je reviens un instant au chef de la diplomatie iranienne, toujours sur cette intervention du jour en Norvège, Mohamed Javad Zarif, qui, toujours évoquant cet organe de coopération à l'échelle du Moyen-Orient, en tout cas à l'échelle du Golfe, a fait un parallèle avec une histoire un peu plus ancienne que vous évoquiez, Amit Bozarslan, il y a plus 50 ans, on était en pleine guerre froide. Et lui, il explique voilà, ce genre d'organisme de coopération. Puisque ça a marché au pic de la guerre froide, dit-il, en Europe, il faisait référence aux accords d'Helsinki, ça devrait marcher dans le Golfe. Est-ce que la référence à la guerre froide, ça pourrait être aussi une autre bonne façon de lire ce qui est en jeu aujourd'hui dans la région, Jean-François Golosimo, ouais. C'est-à-dire deux blocs idéologiques, alors avec une forte connotation religieuse, mais avant tout deux blocs idéologiques qui se font face.
Alors moi, je ne suis pas sûr de ça. Vous voyez, d'abord, parce que pour reprendre ce que disait Hamid sur la guerre du Yémen, aujourd'hui, cet affrontement entre sunnites et chiites, il est sur tous les points chauds de conflit. C'est-à-dire là où vraiment il y a la guerre. C'est le cas en Irak, n'est-ce pas, où les chiites, qui sont majoritaires, ont repris le pouvoir, d'autant plus que les sunnites sont divisés entre sunnites arabes et sunnites kurdes, où là, vous voyez, une complexité, là, d'un coup, le caractère national ou ethnique apporte une complexité supérieure dans le côté religieux. Mais en attendant, ces chiites, aujourd'hui, ils disent vouloir libérer le pays sunnite, en fait, qui a été pris par Daesh, pas simplement parce que Daesh est très fort, mais parce que Daesh a vu aussi venir vers lui tous les sunnites qui se sentaient brimés par le nouveau pouvoir chiite, alors qu'évidemment les chiites avaient été brimés sous le pouvoir d'aspiration sunnite de Saddam Hussein. En Syrie, les Alaouites, la famille de Bachar el-Assad, son clan, puisque les chiites sont pas très nombreux réels en Syrie, mais les Alaouites sont affiliés à l'ensemble chiite, druze, alaouite, c'est à peu près 25% de la population, 20 à 25% de la population. Eh bien, ils sont en but à la majorité sunnite. Une partie des raisons de la guerre se tient là aussi. Rappelez-vous, en 1982, le massacre de Hama par le père de Bachar el-Assad, Hafez al-Assad, c'était un massacre, en fait, de quoi des radicaux sunnites, dont la capitale était cette ville, Hama, et ça a été un massacre tout à fait épouvantable. Ensuite, quand vous arrivez au Yémen, c'est pareil. Ces Houthites, ils ont aussi un caractère ethnique, ils ont aussi un caractère linguistique, mais ils mettent en avant leur caractère religieux. Donc quand on voit tout ça, on se rend compte que malgré tout, la guerre, elle n'est pas froide. Elle est déjà là et elle est chaude. Mais que de notre côté, effectivement...
Oui, on pourrait dire qu'au moment de la guerre froide, il y avait des formes de guerre par procuration que se livraient les États-Unis et l'URSS.
Mais sur les autres continents, Asie, Afrique. Là, c'est dans l'immédiateté du territoire. Mais en même temps, quand vous voulez faire Helsinki, il faut qu'il y ait deux parties qui soient bien organisées. Or, les chiites d'Irak du Sud, mais vous avez des chiites d'Irak du Sud arabes ou arabisés qui sont pro-Iran, et puis vous en avez qui sont radicalement anti-Iran. hein, l'armée du Mahdi de Sadr et Sistani, c'est deux camps différents qui sont prêts à entrer peut-être en guerre civile. Et puis, voyez bien, c'est l'objet de notre rencontre, le Qatar mis au banc. Le Qatar, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, le Qatar, il a soutenu les frères musulmans en Égypte, alors qu'il fallait pas. Il a, avec Al Jazeera, il a fait la propagande des frères musulmans. Et puis surtout, c'est effectivement celui qui dit il faudrait parler avec l'Iran. Le fait que le Qatar, lui, veuille, semble vouloir un tel processus, suffit à ce que l'Arabie Saoudite provoque un blocus du Qatar. C'est pas l'Iran qui procure. Non. Quand on a deux partis organisés, idéologiquement stabilisés et homogènes, on fait Helsinki. Mais quand il y a des querelles intestines au sein des deux partis qui sont sans, vous n'arriverez jamais à un processus stable.
C'est ce qui manque aujourd'hui, justement, des blocs qui soient suffisamment structurés et organisés pour pouvoir se parler de manière autre que la façon dont ils communiquent de manière très brutale aujourd'hui, Amine Bouzarfan.
Mais on voyait cela déjà dans les années 80. Hein. Dans les années 80, le Moyen-Orient était le terrain de trois conflits, l'Afghanistan, où les deux puissances étaient pratiquement ouvertement en guerre, l'Union soviétique et les États-Unis, le conflit civil libanais et la guerre Iran-Irak. Hein. Et déjà à l'époque, les Américains et les Russes ne parvenaient pas nécessairement à jouer le rôle d'arbitre. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, jouer le rôle d'arbitre, alors qu'on est en face d'une guerre civile arabe et un conflit confessionnel, apparaît beaucoup plus difficile. Et la stratégie de Trump, hein, au lieu d'essayer de procéder à une désescalade confessionnelle, hein, de choisir effectivement le camp de l'Arabie Saoudite, hein, alors que l'Arabie Saoudite a été quand même, par l'exportation de son djihadisme à la base du 11 septembre, me paraît extrêmement inquiétante. Ce n'est pas en choisissant un camp entre ces deux camps confessionnels qu'on peut aujourd'hui procéder à prétendre au rôle d'arbitre. Je pense qu'effectivement, si l'Europe avait pu jouer un rôle un peu plus important, ou si il peut y avoir une entente à l'échelle de l'ONU, on aurait pu penser effectivement que ces blocs-là seraient obligés d'une manière ou d'une autre de négocier et de calmer le jeu. Mais pour le moment, on est en pleine violence. Effectivement, je crois que vous avez tout à fait raison, la violence est là. La violence est là, quand vous regardez par exemple le conflit syrien, si le conflit syrien avait eu lieu en France, hein, cela aurait représenté 3 millions de morts, 35 millions de déplacés ou de réfugiés. Et une bonne partie des villes n'existerait plus. On s'attend de manière imminente à 400 ou 500 000 morts au Yémen, qui sont des morts annoncées.
Oui, bien sûr, mais profitons de votre présence, Amit. Et en plus, vous parliez très justement de l'hypothèse d'un Helsinki... mais un Helsinki entre sunnites et chiites, on va dire, pour aller vite, vous croyez que les Kurdes vont être d'accord? Puisqu'on a un grand spécialiste des Kurdes, là, certainement le meilleur au monde. Vous croyez que les Kurdes vont dire, nous, on va payer les frais d'un Helsinki entre sunnites et chiites, quand on sait que finalement le facteur confessionnel, certainement, est le moindre chez les Kurdes, mais que le facteur national est le plus fort? Les Kurdes sont en train de payer très cher, n'est-ce pas, cette guerre qui n'est pas vraiment la leur au départ? Ils font aussi une guerre par procuration pour l'Occident. Hein. Si nous, on a zéro mort, c'est parce qu'il y a des Kurdes qui meurent aussi. Alors, les Iraniens sont aussi engagés sur le terrain. Mais les Kurdes sont censés représenter cette pointe avancée, en quelque sorte, d'un espoir de progrès social, politique. Il n'y a qu'à voir, je dirais, la façon dont on voit ces femmes engagées dans l'armée, bon, etc. Toute cette image, ce ne sont pas que des images, c'est une réalité. Mais vous croyez que les Kurdes vont passer cette fois-ci leur tour dans l'histoire ? N'est-ce pas? En disant, ben très bien, on va faire un Helsinki entre sunnites et chiites, et puis on va rentrer dans le rang, vous allez bien redessiner les frontières comme vous voulez, et le sang qu'on a versé, c'était pour rien. C'était pour vous faire plaisir. Je crois pas, mais enfin, je voudrais écouter Amit là-dessus.
Non, je pense qu'effectivement, ça c'est très clair. Déjà, on le voit très clairement dans le cas du Kurdistan d'Irak, qui aujourd'hui souhaite franchir le pas de l'indépendance. On le voit dans le cas du Kurdistan syrien, qui n'a pas de revendication d'indépendance, mais en même temps qui se pense comme une partie intégrante à la fois de la Syrie et du Kurdistan, du Grand Kurdistan. On voit que les frontières qui ont été érigées dans les années 1800-1920 sont devenues aujourd'hui des frontières totalement militarisées ou totalement sont devenus des frontières passoires, hein, qui n'empêchent pas du tout, disons, la continuité du Kurdistan. De ce point de vue-là, je crois qu'effectivement, il y a le facteur kurde. Il y a d'autres facteurs, dans le cas de Liban, le facteur chrétien. Le facteur chrétien au Liban ne joue pas du tout le même rôle qu'en Égypte. Les chrétiens, aujourd'hui, se sont unifiés, de force d'ailleurs, parce qu'ils avaient peur de l'islam sunnite. Et n'oublions pas aussi qu'il y a quand même des revendications irrédentistes. La Turquie qui peut remettre en cause son acte fondateur fondateur qui est le traité de Lausanne. L'Arabie Saoudite, puis demain, peut ne pas reconnaître la souveraineté de Qatar. Donc ces États-là ne sont pas des États westphaliens tels qu'on les avait pensés au cours du XXe siècle.
Alors avant de revenir justement sur la
Turquie d'Erdogan.
Avant de revenir sur la question des chrétiens, et en particulier des chrétiens d'Orient, parce qu'on a la chance ce soir d'avoir le grand spécialiste des chrétiens d'Orient avec Jean-François Colosimo et celui des Kurdes avec Hamid Bozarslan, mais pour rester un instant sur la question kurde et justement le rôle de la Turquie, est-ce que ça rend totalement illusoire justement le fait qu'on puisse imaginer que la Turquie pourrait jouer ce rôle d'arbitre régional, cet arbitre qui manque aujourd'hui dans ce vaste conflit au Moyen-Orient, Hamid Bozarslan?
En l'occurrence, oui, en tout cas pour le moment. N'oublions pas que la Turquie et l'Iran se sont menés une guerre froide qui a été chaude aussi sur certains terrains, notamment en Syrie, pendant les 5 dernières années. Donc la Turquie...
On en est où d'ailleurs aujourd'hui?
Cette guerre froide continue. Est-ce qu'après...
Avec une forme de coopération quand même sur la question syrienne, c'est-à-dire on voit bien qu'en tout cas les négociations, elles se font sous le patronage des Turcs, des Iraniens, des Russes.
Certes, mais parce que la Turquie a capitulé devant Poutine. Donc sans cette capitulation et sans l'abandon de Alep, sans doute aujourd'hui on n'aurait pas été dans cette apparence de paix, mais la paix n'est pas là. Est-ce que la question qatari va changer la donne? Je ne suis pas tellement certain. Cette guerre froide continue, mais surtout la Turquie, après avoir collaboré avec Al-Nusra et avec l'État islamique d'une manière ou d'une autre et réprimé ses propres Kurdes, peut difficilement prétendre au rôle d'arbitre. L'Iran a sa propre question kurde, qui est une question absolument explosive. Là aussi, on voit une radicalité qui est là. Donc, sans doute, les Kurdes, effectivement, je ne sais pas quelles seront leurs marges de manœuvre. Est-ce que demain, les Américains vont continuer à les soutenir ou est-ce qu'ils vont les abandonner? Quelles seront les politiques européennes? Donc, je ne vais pas faire de prédictions concernant l'avenir. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une dynamique kurde. Et cette dynamique kurde ne veut pas être une dynamique qui suivrait docilement les stratégies hégémoniques iraniennes ou turques ou saoudiennes.
Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'obligation de choisir son camp, et par exemple, alors pour une communauté qui est sans doute moins structurée que la communauté kurde, je pense aux chrétiens d'Orient, Jean-François Colosimo, on peut rester en dehors de ce conflit, ou bien il faut forcément s'aligner sur un des deux grands camps?
C'est encore une vaste question, parce que vous savez que les chrétiens d'Orient, c'est un terme d'ailleurs qu'on peut un peu débattre, mais ne forment pas une communauté. Là aussi, c'est une foultitude de peuples, de cultures, parfois de peuples, vraiment au sens ethnique et linguistique, parfois pas, d'église, de culte, de culture, de situations très différentes. Ce qu'on peut voir, il y a deux pays tests, c'est le Liban. On a vu que les chrétiens maronites, ceux qui véritablement ont fait le Liban en quelque sorte, qui sont des chrétiens orientaux, mais très latinisés, rattachés à Rome depuis toujours, qui sont les enfants de la France au Liban, enfin de la culture française en quelque sorte, qui étaient finalement les moins banarabes des chrétiens d'Orient, pour dire les choses comme elles sont, ils se sont à un moment vraiment divisés, les uns ayant rejoint le clan Hariri, c'est-à-dire le clan sunnite et américain, les autres ayant rejoint Nasrallah et Hezbollah. Michel Aoun, qui est bien connu en France, puisqu'il a été, ici, a choisi le Hezbollah. Alors évidemment, ces chrétiens-là, maronites par exemple, n'ont pas du tout la même attitude que les chrétiens orthodoxes, qui eux restent fondamentalement, marqués par la volonté d'être dans l'arabité et d'être du côté du monde musulman. Mais tous ces chrétiens, ils ont le même sentiment. Tout de même, c'est quand même parfois plus facile de parler avec les chiites parce qu'ils ont eux aussi un sentiment de minoritaire et que ce que ces chrétiens craignent, c'est le rouleau compresseur sunnite. En Égypte, c'est tout à fait différent. Il est évident que les Coptes ont tremblé devant le pouvoir des frères musulmans. Il est évident que le maréchal Al-Sissi multiplie les signes de solidarité avec les Coptes martyrs. Et on le voit sans arrêt à la cathédrale du Caire, pour la messe de Noël, dès qu'il y a des attentats, il fait des gestes extrêmement forts. Mais en même temps, le maréchal Sissi, du côté musulman sunnite majoritaire de l'Égypte, il n'a pas beaucoup de latitude. S'il veut contrer les frères musulmans, il faut qu'il favorise les salafistes. C'est ça son dilemme. C'est ça son véritable dilemme aujourd'hui au maréchal Al-Sissi. C'est-à-dire de choisir entre deux formes de radicalité, une forme de radicalisation moins politique, moins immédiatement politique que l'autre. Mais c'est une très mauvaise nouvelle pour les chrétiens. parce que les frères musulmans veulent quand même jouer une apparence de légalité, alors que les salafistes simplement ne veulent pas les voir, ces chrétiens, et ne se sentent pas concitoyens et compatriotes de ces chrétiens. Donc vous voyez, c'est complexe.
C'est une alternative qui est assez désespérante, Hamid Bouzarslan.
De toutes les manières, je pense que soutenir le salafisme contre l'islam politique organisé sous forme de parti est une stratégie suicidaire. On l'a expérimenté maintenant depuis le début de la guerre d'Afghanistan en 1980. Le résultat a été le 11 septembre. Le résultat en était des attentats qu'on a pu connaître en Europe. Hein. Et surtout, n'oublions pas que plus que le chiisme, infiniment plus que le chiisme, aujourd'hui, c'est le djihadisme sunnite qui est quand même responsable de la situation au Moyen-Orient. Cela n'excuse absolument en rien la brutalité, la criminalité du régime de Bachar al-Assad. Après tout, Bachar al-Assad a été quand même le principal responsable du drame de la tragédie syrienne. Mais si on laisse un ou deux cas isolés, on voit qu'effectivement aujourd'hui, la guerre fratricide qui se mène dans le monde arabe est constamment alimentée par l'État islamique, par son prédécesseur qui était le front de al-Nusra, et par une autre secte militarisée qui agissent aujourd'hui dans cet espace, mais aussi au-delà, jusqu'à l'Afrique noire.
On est presque au terme de l'émission. S'agissant du conflit syrien et du combat aujourd'hui contre l'État islamique, à la fois identique et différent, parce que ça ne se joue pas exactement sur les mêmes terrains et sur les mêmes registres, mais est-ce que vous diriez, pour rester finalement sur la thématique de ce soir, que la solution à ces conflits, ça doit être une solution notamment, pas exclusivement sans doute, mais notamment sur le terrain du religieux, Jean-François Colosimo. C'est-à-dire qu'on ne réglera rien si on se contente d'apporter des solutions politiques, mais qu'il faut aussi prendre en compte cette dimension religieuse.
Je crois qu'il faut prendre en compte les réalités. Dans ces réalités, le culte compte, parce que le culte est producteur de culture. Et que les cultures, le choc des cultures, existe. Vous savez, il y a une très bonne formule, très ancienne, sur le Liban. Vous savez, le communautarisme libanais, 16, 17, 18 communautés, comment ça a fait pour marcher? Mais c'est très simple, il y a une règle très simple. C'est pas parce qu'on vit ensemble qu'il faut qu'on se parle, et c'est pas parce qu'on se parle qu'il faut qu'on vive ensemble. La réalité des communautarismes, c'est aussi beaucoup d'étanchéité. Ces étanchéités, elles ont sauté. Du coup, les populations ne sont plus protégées. Je ne pense pas, moi, qu'il faille, je dirais, encourager la surenchère religieuse, surtout lorsqu'elle prend une dimension fanatisée. Il faudrait retrouver un certain ordre du politique. Mais pour retrouver un certain ordre du politique, faudrait-il encore que les grandes puissances, qui jouent leur jeu aussi au Proche-Orient, aient une vision claire et positive de l'avenir du Proche-Orient. Et là, sans avoir aucun accès de complotisme, je veux dire, du tout, parce que ce sont les leçons du passé. Vous savez, Hamid parlait du traité de Lausanne. Il y avait 2 ans plus tôt, il y avait eu le traité de Sèvres qui prévoyait l'établissement d'un Kurdistan. Ça a été passé par perte des profits, parce qu'entre-temps, il y avait Mustafa Kemal, hein, qui avait gagné sa guerre révolutionnaire et nationale. Donc je pense que ces peuples-là sont habitués aussi, malgré tout, à entendre de grandes promesses de la part de l'Occident et à être régulièrement lâchés, régulièrement abandonnés, et particulièrement ceux qui ont trop cru à l'Occident, ce sont eux qui paient les pots cassés et le prix, le plus souvent.
Oui, Beaux-Artan, pour conclure sur la question de l'étanchéité qu'a évoqué Jean-François Colosimo.
Je pense que là, effectivement, on sait que les communautés étaient séparées par des frontières. Le corps de la femme était considéré comme une frontière parce que la reproduction du groupe passait par cela. Le lieu du culte était considéré comme une frontière parce que la pérennité de la communauté était assurée plus par l'au-delà, par un sens métaphysique, que par le sens terrestre. Et les cimetières étaient séparés, c'était une frontière parce que c'était les morts qui constituaient en quelque sorte la communauté. Et on sait qu'en situation de violence, ces frontières sautent. Et le génocide des Arméniens, on va commencer par le génocide des Arméniens en 1915. On sait combien la brutalisation de ces sociétés finit aussi par la destruction de ces frontières. Pour le reste, je dirais aussi une conscience citoyenne dans le monde arabe, mais aussi peut-être en Europe et en Occident d'une manière générale, parce que n'oublions pas qu'on est resté quand même tout à fait silencieux par rapport à ce qui se passe dans cette région depuis très longtemps, notamment depuis depuis 2011.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur cette région extrêmement complexe. Merci Jean-François Colosimo et Amit Bozarslan. Je renvoie à vos derniers ouvrages en date. Qu'est-ce qu'une révolution aux éditions du CERF pour Amit Bozarslan. Les hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient, c'est chez Fayard et c'est signé Jean-François Colosimo. Cette émission, vous pouvez la réécouter sur franceculture.fr. Émission préparée par toute l'équipe du Grain. Céline Leclerc, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Maya Nefskovic, Cyril Baer, Louise Fuseau. Émission réalisée par Lise-Marie Barré avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan. Demain, nous nous intéresserons à un phénomène saisonnier, le mercato des journalistes. Est-ce que c'est la loi de la jungle qui prévaut ? Bien, ce sera la question que nous poserons à partir de 18h20.